Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, histoire, anatomie, critique, Pierre Rosanvallon publie son grand livre du populisme, du laboratoire latino-américain au populisme en acte. Aujourd'hui, il raconte et analyse la naissance et les réalités d'un concept qui s'est banalisé jusqu'à la perte de sens. Il en redonnera. L'historien nous rejoindra à partir de 12h55. Mais d'abord, la grande table culture avec le comédien Pascal Grégory, l'acteur fétiche de Patrice Chéreau, et ce mois-ci à l'affiche d'un premier film de la chinoise Yang Xing en salle mercredi. Le film s'appelle « Trois aventures de Brooke » et nous parle à la fois des accidents de la vie et des bonheurs des rencontres. Pascal Grégory, notre invité, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Une jeune chinoise voyage en Malaisie du côté d'Alor Setar. C'est sur une route de campagne que son pneu de vélo va crever. Un même incident qui ouvre la porte à trois récits différents, trois rencontres sur trois jours. Pascal Grégory arrive dans la troisième histoire, troisième tableau. Touristes aussi, ils font connaissance chez le réparateur de vélo, scooter, et choisissent de tuer le temps ensemble avant de reprendre la route. Dans le film, son nom est Pierre. Bande annonce.
My name is Pierre. Peaceful life. I don't know. It's very hard to get.
Bonjour Pascal Grégory.
Bonjour.
Bonjour. Pierre, c'est donc vous dans ce film.
Oui.
Tourné en Malaisie avec une réalisatrice chinoise et des acteurs étrangers aussi. Est-ce que c'est plus facile d'être un autre que soi ailleurs ?
Non, ça dépend du réalisateur, notamment en l'occurrence la réalisatrice chinoise. Non, c'est pas plus difficile. Au contraire, je trouve que c'est un avantage de tourner à l'étranger et en langue étrangère.
Et dans une autre langue, oui, j'allais vous dire anglais
moi,
pour vous.
J'ai tourné l'anglais, donc en anglais dans ce film. Non, c'est vraiment au contraire quelque chose en plus. On a tellement pas l'habitude. J'ai tellement pas l'habitude de tourner. Enfin, dans une langue étrangère, et surtout avec des réalisateurs, et surtout avec des réalisateurs chinois, que c'est un monde qui s'ouvre à moi et qui s'est ouvert pendant tout ce tournage, et un monde, je dois dire, qui m'a fasciné, réellement. Parce que l'histoire, d'abord, est fascinante. En plus, comme elle s'est inspirée d'un réalisateur qu'elle adore, qui est Éric Rohmer, avec qui j'ai énormément travaillé. Donc, ça rapprochait évidemment entre les deux, entre l'univers de Rohmer que j'ai très bien connu et l'univers du chinois pour moi qui est totalement inconnu. Donc, il y avait un rapprochement, il y avait une sorte de cohérence entre ces deux univers.
Et ces deux univers, ils se rencontrent où, justement? Sur quelle atmosphère? Une légèreté, c'est le terme qu'emploie la réalisatrice, notamment Yuan Xing. Vous trouvez que c'est effectivement ce qu'il y a de commun?
Disons que je ne sais pas si c'est de la légèreté, parce qu'en même temps, les films d'Éric Rohmer sont profonds, avec une sorte de vernis, peut-être effectivement léger, mais il y a une profondeur intellectuelle, une profondeur de sentiment qui existe dans les films de Rohmer. Et là, elle a voulu reproduire, c'est comme une sorte d'hommage à Rohmer, elle a voulu reproduire ça, cette profondeur et aussi cette insouciance de cette jeune fille qui est chinoise et qui part en Malaisie pour retrouver son mari, son mari qui est mort, mais pour retrouver des traces, la mémoire de son mari. Puis elle rencontre cet étranger que je joue. Voilà, c'est un univers assez féerique et en même temps, très concret. Le fait de tourner en Malaisie, où il y a une grande communauté chinoise aussi là-bas, c'était aussi un apport en plus, un pays en plus, la France, la Chine, la Malaisie. Tout ça a fait que le film est Enfin, le film est très cohérent et le film est très plaisant, quoi. Très, et en plus très amusant. C'est un film assez, oui, drôle. Enfin, drôle. Oui, léger et drôle.
Parenthèse, vous venez de boucler un autre projet et vous serez à l'affiche début février du prochain film d'Atik Raïmi, qui est écrivain et réalisateur. Le tournage, là, s'est fait au Rwanda pour l'adaptation de Notre-Dame du Nil de Scholastique Mukasonga. Autre expérience, d'une toute autre histoire, avec une autre culture aussi à appréhender. Ah,
voilà, encore une fois, encore un pays que je connaissais pas. Un continent que je, en tout cas, l'Afrique centrale, tout ça, je connaissais pas. Donc ça aussi, c'est une autre aventure. C'est, en fait, quand on est acteur, enfin, j'ai la chance de pouvoir tourner ces derniers temps dans des pays que je ne connaissais pas, dans des langues plus compliquées pour moi, forcément. Et ça, c'est un voyage, hein. Ça, c'est vraiment le genre de l'aboutissement, je dirais, du métier d'acteur, c'est-à-dire d'arriver dans des pays inconnus, donc de créer des personnages très inconnus pour moi, dans un pays inconnu avec une population que je ne connaissais pas. Donc le film se passe effectivement au Rwanda, 20 ans avant le génocide de 94. Donc le film se passe en 74 dans un lycée de jeunes filles où les prémices du génocide s'installent.
Et là encore, on imagine que vous avez pu partager des expériences de jeu, parce qu'il y a mille manières de jouer un personnage. Est-ce qu'il y a une French touch aussi dans la manière de jouer? C'est pas si simple. Vous avez évoqué cet hommage que la réalisatrice a voulu rendre à la Nouvelle Vague et à Éric Rohmer. Votre personnage s'appelle d'ailleurs Pierre, comme dans Pauline à la plage, l'un de ses films cultes, et elle le revendique, la réalisatrice de Trois aventures de Brooke. Est-ce que ce personnage que vous jouez là joue un peu à la manière de Rohmer? Est-ce que c'est un peu Pierre dans Pauline à la plage, 40 ans plus tard, toujours un peu obstiné aussi dans sa quête et dans ses rêves, malgré les échecs?
C'est-à-dire qu'on joue, oui, enfin, c'est moi, donc je joue toujours un peu, je dirais pas de la même manière, mais disons que...
Alors c'est vous qui êtes vous, c'est pas Pierre qui est Pierre.
Non, c'est pas Pierre qui est Pierre, c'est moi qui suis Pierre. Et c'est effectivement Pierre qui aurait changé de vie, qui aurait décidé de vivre ailleurs, ou en tout cas de voyager, le personnage, je parle du personnage de Pauline à la plage. Ou 30 ans après, 35 ans après, il se retrouve en Malaisie. Mais c'est un écrivain. Il est devenu écrivain, ce Pierre. Et c'est un voyageur qui cherche, qui est en quête de quelque chose aussi. Et comme dans Le Rayon Vert, le fameux film d'Éric Rohmer, là, il cherche les larmes bleues, oui. Qui est aussi un effet, atmosphérique. Comme dans Le Rayon Vert, et là, c'est un moment très court, au bord de l'eau, à la tombée de la nuit, où tout d'un coup, les vagues au bord du sable deviennent bleues. Il y a mille petits insectes qui deviennent bleus.
Et ça, c'est pas un effet.
Non.
Du cinéma, vous l'avez vraiment vu?
Non, on l'a pas vu. C'est comme Éric Rohmer qui a tourné Le Rayon Vert. Il s'est installé plusieurs jours pour essayer de trouver le rayon vert, le fameux rayon vert. Il l'a pas trouvé, donc ça s'est fabriqué sur la pellicule, et là, pareil.
Ouais. Et ça doit être magnifique à voir en vrai aussi. La méthode d'acteur façon Éric Rohmer, je vous propose d'écouter un extrait filmé d'une répétition avec vous, Pascal Grégory, à l'époque de Pauline à la plage, je crois. Éric Rohmer et Jean Douchet regardent ensemble et commentent des essais. Cet extrait de Preuve à l'appui, et ça se passe dans les locaux des films du Losange.
Il me dit, on se connaît depuis trop longtemps, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Moi, je crois pas que ça marchera, tu vois.
Pourquoi?
Je sais pas, tu dis, tu veux changer le monde, tu veux la changer, tout de suite.
Je veux pas changer.
T'es un peu prétentieux, moi je trouve.
Mais je veux pas changer le monde,
Mais si, tu veux la changer, elle, non? Bon,
mais
c'est pareil.
Elle tombe amoureuse de garçons qui ne sont pas amoureux d'elle. Le seul qui est amoureux d'elle, c'est moi. Alors moi, je veux quand même beaucoup mieux que tous ces types qui sont autour d'elle. C'est évident que ça marchera. Hein?
Non, c'est pas du tout évident.
J'arrête.
Et quand elle se rendra compte?
Bon, je vous ferai comparer avec le film.
Oui. Quand on n'a pas le film en tête... On a l'impression vraiment que c'est le film. Ça fait pas de différence.
Il y a une différence. Je pourrais dire que c'est plus naturel que le film, d'une certaine façon. Et en même temps, c'est moins prenant. Par exemple, sur la voix, sur les intonations, à un moment, elle a une voix qui monte dans l'aigu, qui est très naturelle. Et c'est d'ailleurs pour l'obliger à être naturelle. Parce qu'un acteur, surtout à cet âge-là, a parfois tendance à un peu réciter quand il y a un texte. Alors je voulais lui faire absolument oublier le texte.
Voilà, c'était ça la méthode Rohmer, obliger ses acteurs à être naturels.
La particularité de Romer, comme on le sait, c'est qu'il a, il prenait majoritairement des acteurs très jeunes, des actrices et des acteurs très jeunes. Et il les prenait en fait pour ce qu'ils sont, et non pas pour ce qu'ils peuvent incarner, je dirais, ou transformer le personnage. Donc, on était donc très jeunes, comme je vous le dis, et c'est vrai que, à la différence d'autres metteurs en scène, on ne jouait pas, on était nous-mêmes, il suffisait d'apprendre le texte, et finalement, on n'avait pas un grand effort à faire, puisqu'on travaillait uniquement sur nous-mêmes, quoi. On était devant la caméra nous-mêmes, et avec des situations qu'on connaissait. Et alors que d'autres metteurs en scène, évidemment, nous travaillons, par exemple, en l'occurrence Patrice Chéreau, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Alors là, on fait un travail de personnage, ce qui n'était pas le cas de Romer.
La touche romérienne, la singularité aussi de son cinéma, dans ce film, présenté, évoqué comme un hommage aussi par la réalisatrice chinoise Yuan Xing, ce film Trois aventures de Brooke qui sortira en salle mercredi, on la retrouve aussi sur l'aspect fable, un peu conte moral de ce film. Hein. Il y a cette phrase qui revient à plusieurs reprises et qui en dit long, les gens que vous rencontrez sont le reflet de vos propres états de votre propre état d'esprit. C'est pareil en amour et dans la vie. C'est la voyante qui dit ça à l'héroïne, à la personnage, la jeune chinoise qui voyage en Malaisie et qui vient chercher quelques réponses à ses questions devant un jeu de tarot, un jeu de cartes. Vous êtes d'accord avec ça, Pascal Grégory? Les gens que vous rencontrez sont généralement le reflet de votre propre état
d'esprit. Je crois beaucoup au destin. Éric Rohmer disait « Tout est fortuit, sauf le hasard ». Et donc, je ne crois pas beaucoup au hasard. Je crois évidemment au destin. Le destin qu'on se fabrique, bien sûr. Et puis, il ne faut pas louper le destin non plus. Il ne faut pas louper les rencontres. Mais moi, je crois à ça. Et c'est rigolo parce que, en même temps, j'ai apporté un texte de écrit par Patrice Chéreau. Parce que en ce moment, je suis un peu en tournée avec un spectacle que j'ai fait sur lui, sur des textes de lui. Et je lis ça. Regardez ce qu'il dit. Je pense que ça c'est Chéreau qui parle. Je pense que je suis avec bonheur la somme de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que on est amené malgré soi. Enfin, il y a des forces en soi qui fait qu'on rencontre parfois, souvent d'ailleurs, les bonnes personnes. Qui fait qu'à un moment donné, on grandit.
Ça se compte sur les doigts d'une main, les bonnes personnes rencontrées dans
la vie. Oui. C'est comme une histoire d'amour, hein. Pareil.
Comment vous provoquez le destin, vous, Pascal Grégory? Comment on fait?
Je pense avoir un peu de goût. Donc,
à l'instinct. Repérez à l'instinct. Vous repérez les personnes qui vous feront du bien ou qui vous apporteront quelque chose.
Je pense que je vais très naturellement vers des gens qui peuvent me grandir, qui peuvent m'apprendre des choses, qui peuvent m'instruire. Depuis toujours, j'ai été comme ça.
Votre carburant, il est où? C'est la complicité ou c'est la confrontation parfois avec des metteurs et des personnalités?
C'est les deux. Oui, confrontation aussi. Bah, heureusement, s'il n'y a pas de confrontation, on n'évolue pas. Et la patience aussi, beaucoup de patience.
ça se travaille aussi.
Oui.
Oui. Et des silences peut-être parfois aussi. Le silence a des significations infinies. Apprend-on aussi dans le film? Ou encore, parler moins signifie plus. Ça nous semble provenir d'une culture très asiatique. Cette capacité à retenir notre souffle et notre parole et de laisser les regards aussi s'exprimer. Et c'est ce qui est très beau dans ce film, dans ces trois aventures de Brooke. Cette capacité à suspendre le langage qui est finalement le plus difficile à faire advenir. Quand on est acteur, quand on est comédien, on est un homme de mots, Pascal Grégory. Est-ce que vous avez aussi appris à travailler vos silences, à leur donner du poids?
Les silences sont les plus difficiles à faire, je dirais, car on a peur des silences. Nous, comme vous dites, un métier de mots, c'est sûr. Nous travaillons avec nos voix, avec les mots, avec les phrases. Et les silences, on pense que toujours, quand un silence arrive, eh bien que c'est foutu, quoi. Le silence fait peur. Et donc, il ne faut pas avoir... Disons qu'il ne faut pas bouder son plaisir du silence, du tout. C'est très important, aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Il y a des acteurs qui ne peuvent pas, qui n'y arrivent pas, il faut qu'ils parlent, qu'ils parlent, qu'ils parlent. Alors que dans la vie, on ne parle pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. On fait des grands silences. Et il faut savoir en jouer, il faut savoir s'en servir. C'est très important. Romer, il y avait beaucoup de silence dans les films de Romer. Et Chéreau aussi, justement. C'est beaucoup lié aussi au travail avec le metteur en scène.
J'ai peur de l'eau, des espaces clos et des films commerciaux. Ça, c'est ce que dit l'actrice Kristen Stewart en une des Un Rock cette semaine. Et vous, de quoi vous avez peur, Pascal Grégory?
Ça, c'est une question difficile, hein. Surtout le matin, comme ça. Je ne sais pas, j'ai peur de tout.
Il est midi 16.
J'ai peur de tout et de rien à la fois. Je suis assez combatif.
Pas des silences?
J'ai pas peur des silences.
Et de la mort, parce qu'il en est question aussi dans ce film.
Non,
et votre personnage dit qu'il a appris à l'appréhender, cette mort, à travers celle de tous ses proches qui partent au fil des années. 2-3 enterrements par an, raconte-t-il, votre personnage de Pierre, dans ce film qui sort en salle mercredi. Vous, la mort, à force de l'avoir vécu, d'avoir vu vos proches, des proches partir, vous avez
évidemment
su aussi la domestiquer.
L'âge venant, voilà, il y a des gens qui partent que vous aimiez, qui partent. Mais non, j'ai pas peur de la mort, j'ai peur d'une façon assez égoïste de vieillir, oui, ça, oui. Mais ça, c'est un peu le métier d'acteur qui fait ça, bien sûr.
Pourtant, là, je vous va bien.
C'est gentil, mais ça, c'est le regard des autres, mais le regard vers moi est plus compliqué. Je dis pas que c'est une torture, pas du tout. C'est un peu, comme je dis, égocentrique, mais la mort, non, la mort ne me... J'y pense peu. J'y pense peu. Et pourtant, j'ai des amis, de la famille très proche qui, évidemment, sont plus là, mais ils sont toujours là.
Et l'âge ne vous a pas permis d'accéder à des rôles plus intéressants?
Si, sûrement, bien sûr.
Ou différents?
Bien sûr, évidemment, évidemment. Puis c'est l'expérience de l'âge, c'est l'expérience du travail. C'est certain que les années passant... Mais alors, il y a une particularité très étrange, c'est que plus le temps passe et plus je vieillis et plus j'ai le trac et plus j'ai peur de ce métier. Il y a une inconscience quand on est très jeune qui fait que ce métier bizarre, ce métier qui est presque pas un métier, que je dirais presque comme un sport de compétition aussi, qui fait que ça fait pas peur quand on est jeune. Et l'âge venant, oui, ça fait très peur parce que on se rapproche de la fin, parce qu'on connaît plus ses défauts, on sait où il faut pas aller, alors qu'avant, quand on est jeune, on sait très bien, on s'en fout où on veut pas aller, on y va. Et oui, on prend conscience, quand on est plus âgé, enfin acteur plus âgé, de la grande difficulté de ce métier.
France Culture avec Pascal Grégory, il est midi 19. Musique, c'est Paolo Conte qui est de retour sur scène à l'Olympia à Paris, les 14 et 15.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro il pomeriggio.
Paolo Conte est donc en concert les 14 et 15 janvier à l'Olympia à Paris. La star italienne qui célèbre sur scène les 50 ans d'Azzurro, son tube que vous venez d'entendre, reprise d'Adriano Celentano. Interprété ici, c'était en public en 2018, à retrouver dans l'album Live in Caracalla, donné dans les termes romains. Donc ce concert, il en a fait un album et cet album est dans les bacs.
France Culture, la grande table. Olivia Jesbert.
avec notre invité Pascal Grégory, qui est à l'affiche à partir de mercredi dans un film, un premier long métrage de la jeune chinoise, 32 ans seulement, Yuan Xing. Et le film s'appelle Trois aventures de Brooke, d'inspiration romérienne, comme elle le dit. Un très joli film sur la rencontre et les jeux du hasard et de la chance. Pascal Grégory, qui tourne aussi depuis plus de 2 ans maintenant avec des lectures de textes d'un homme qui lui était cher, Patrice Chéreau, des textes qu'il a écrits et qui ont été réunis dans les 3 tomes de son journal de travail publié chez Actes Sud, où il parle à la fois de son travail, de sa relation aux acteurs, aux auteurs, et où l'on retrouve aussi des extraits de sa correspondance, ce spectacle mis en scène par Jean-Pierre Pancrazy. On évoquait l'importance d'un Romer et d'un Chéreau pour vous, Pascal Grégory. Chéreau qui, à la mort de Coltès, disait qu'il n'y avait plus d'urgence pour lui à faire du théâtre. Ma vie a été bouleversée par la rencontre avec un auteur auquel je me suis entièrement consacrée. Est-ce qu'il y a eu comme ça dans votre vie aussi, Pascal Grégory, des metteurs en scène, des réalisateurs pour lesquels vous avez éprouvé un sentiment aussi entier et du coup une perte aussi entière?
Parlons de lui, de Patrice Chéreau.
C'est lui.
Oui, c'est lui. Oui, oui. Oui, parce qu'il m'a appris énormément de choses. En fait, ce spectacle que je tourne, j'étais à Bastia il y a 3 jours, donc je l'ai joué là-bas aussi. C'est pas un hommage, c'est comme une sorte de, c'est comme lui rendre la politesse de tout ce qu'il m'a appris, de tout ce qu'il m'a apporté.
Il était à l'écoute, on l'imagine. Il était aussi à sa table de travail. Et il dit que c'est là que commence le boulot avec un comédien. Écoutez Patrice Chéreau en 2009.
C'est une chose que je fais toujours, que j'ai apprise de Planchon d'ailleurs, en regardant ses répétitions de Roger Planchon. On s'assied à une table, d'abord parce que pour réfléchir, il faut d'abord analyser le texte. Pour analyser le texte, on ne va pas se mettre debout à marcher et à l'apprendre par cœur tout de suite. Donc on s'assied à une table, on le lit, modestement, sans forcément vouloir le jouer, mais en essayant de comprendre les mots, en essayant de s'écouter mutuellement. Et c'est le premier exercice avec lequel je débute chaque spectacle, et je débute les films. Dans les films, c'est court, mais il y a toujours un moment où je suis à la table et je lis les scènes. Et on en parle, on discute. On écoute aussi la façon dont les acteurs, dont l'instinct des acteurs les mène, quelquefois, vers des pistes justes et d'autres fois vers des pistes un peu fausses qui vont les handicaper après s'ils les gardent. Donc on essaye de faire une sorte d'explication de texte et c'est une fois chargé de ce bagage-là qu'on se lance sur le plateau. Il faut pas le faire trop longtemps à la table parce que quelquefois il m'est arrivé de faire 3 semaines à la table. Et à la fin, on ne sait même plus comment se lever. Mmh. On n'a plus de jambes.
Vous avez appris à vous relever depuis son départ. Il est mort il y a 6 ans, Patrice Chéreau. À vous remettre debout.
Oui, parce que je pense évidemment beaucoup à lui. À chaque fois que je travaille des nouveaux personnages, je pense à lui. La manière dont on travaillait ensemble. Donc il m'aide encore beaucoup.
Comment vous expliquez ce qui vous liait? La particularité.
Je vais vous dire un truc, c'est que Patrice Chéreau ne m'aimait pas comme acteur. Il n'aimait pas beaucoup les films d'Éric Rohmer. Je lui ai appris au fil du temps à aimer et à surtout à accepter et à comprendre l'importance d'Éric Rohmer dans le cinéma français. Alors évidemment, après, il se l'appropriait. Mais donc, il m'aimait pas énormément comme acteur. Et c'était pour lui comme un défi, dans le fond, de me faire travailler. Et de me faire travailler d'une façon différente. Ça l'intéressait énormément de faire bouger les choses et qu'un acteur soit à son contact meilleur, différent qu'est-ce qu'il était avant.
C'est-à-dire que pour lui, vous n'avez pas tout de suite été une évidence. C'est un metteur en scène que vous avez dû conquérir.
Oui, mais enfin, c'était comme un jeu de ping-pong. Hein.
On en revient à la confrontation alors, oui, aussi, oui. Et à l'échange.
Il fallait aussi me conquérir, mm-hmm. Je dirais. Et je l'ai. Oui, c'était un travail à deux, quoi.
Quel Chéreau avez-vous choisi de faire résonner dans ces lectures proposées dans ce spectacle?
Un Chéreau assez inattendu, parce qu'on pense toujours que Patrice Chéreau était un intellectuel, or il était le contraire d'intellectuel. Il était extrêmement intelligent, extrêmement brillant, extrêmement cultivé, mais c'était pas du tout un intellectuel comme d'autres metteurs en scène. Et donc j'ai montré des textes. Enfin, je lis des textes. Peu connus, mais qui ont été publiés, des interviews, des choses comme ça, et avec une langue très belle, une langue très passionnante. Et on découvre un Chéreau plus intime.
Alors, on va écouter la suite de ce texte que vous avez évoqué tout à l'heure, Pascal Grégory. « Je pense que je suis avec bonheur la somme de toutes les personnes que j'ai rencontrées », nous disiez-vous.
Oui.
Et qu'écrivait Patrice Chéreau par la suite ?
Et continuer par « S'il y a une force, elle m'a toujours été donnée par les gens avec qui j'ai travaillé ». Et à un moment de la vie, quand on est plus jeune, on a un peu tendance à les brutaliser, on a un peu tendance à les brusquer, à les écraser même. Et après, on apprend que c'est pas du tout intéressant d'écraser les autres, que c'est beaucoup plus intéressant soit de les aider, ça c'est un cadeau magnifique quand on y arrive réellement, soit simplement de les regarder, et de les regarder pour ce qu'ils sont, et de les aimer pour ce qu'ils sont, égoïstement pour ce qu'ils vous apportent et ce qu'ils vous donnent. Et de comprendre, enfin, dans ce miracle qui se passe sur un plateau, quelle que soit la situation, que ce soit sur un plateau de cinéma, d'opéra, de théâtre, tout, qu'il vous donne réellement, profondément quelque chose, ne serait-ce que de l'attention qu'on cherche tous ensemble.
Merci beaucoup, Pascal Grégory, pour cet extrait. C'est à ça, cet extrait de ses correspondances ou de ses notes de travail?
Non, ce sont c'est publié dans des livres qui lui sont consacrés.
Lui et vous, Pascal Grégory, avec Patrice Chéreau, c'était surtout d'abord dans La solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès. 8 ans après l'avoir monté une première fois avec Isaac de Bancolé et Laurent Mallet au Théâtre Nanterre-Amandier, il avait donc repris avec vous cette pièce, vous dans le rôle du client et lui dans celui du dealer. C'était une production du Théâtre de l'Odéon. Vous vous souvenez peut-être de la période, la pièce s'est jouée pendant les grèves de 95,
ouais.
C'était en novembre.
C'était rigolo parce que on avait chacun une voiture et comme c'était à Ivry, dans la manufacture des œillets d'Ivry, qui était d'ailleurs une usine désaffectée. Ça, c'était le choix de Patrice Chéreau de jouer toujours dans des endroits neutres, dans des endroits qui n'étaient pas des théâtres. Et pendant les grèves, on avait chacun une voiture et finalement, on ne pouvait pas y aller. On mettait 1h30 de Paris à là-bas, même parfois 2h. Et donc, on avait acheté des mobylettes. Patrice et moi, on avait chacun une mobylette. On y était en 20 minutes.
Et c'était la dernière chose que je voulais vous demander, quel écho entre la scène et la rue dans des moments comme ça, parce qu'on vit une période aussi d'ébullition, jouer dans des moments de bouillonnement comme ça, est-ce que la scène est un miroir, est une éponge, absorbe ce qui se passe dans le pays ou au contraire un refuge?
Non mais sûrement, parce que d'abord les spectateurs arrivent avec chargés de toutes ces émotions, quoi, nouvelles émotions, voilà. Et donc effectivement, nous on le ressent en tant qu'acteurs, on ressent évidemment toutes ces journées passées dans des grandes difficultés. Et le théâtre, qui était paradoxal, le théâtre était plein, la salle était absolument pleine. Donc ça veut dire que les gens partaient à 14h ou 15h pour arriver à 20h.
Voilà, c'était en 95, on est aujourd'hui en 2020. C'est un écho de ces moments-là que vous avez pu vivre, qui se rejouent à la fois dans la rue et au théâtre. Merci beaucoup à vous, Pascal Grégory, d'avoir
été
avec nous. Les Trois Aventures de Brooke est en salle mercredi et on espère vous retrouver très prochainement. Dès qu'on a des dates, on les met sur le site internet de la Grande Table pour retrouver ces lectures, ceux qui m'aiment, cet hommage que vous rendez à Patrice Chéreau en texte. Merci bien.